Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographique, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Vous reconnaissez tous à cette image le chef-d'œuvre inoubliable de François Truffaut, Les 400 coups. Son premier film, Grand Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1959. Et puis ce fut le grand succès du film à la fois pathétique et charmant, Jules et Jim. Voici à présent une nouvelle réalisation de François Truffaut, La peau douce.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique. Et oui, car nos éditeurs vidéo préférés là, ont sorti plein de petits classiques ou des films réputés pour être des classiques, en tout cas, ou de réalisateurs considérés comme des grands réalisateurs dans l'histoire du cinéma. Et on va démarrer par une trilogie de comédies romantiques qui est une véritable trilogie considérée comme des classiques aux États-Unis, hein, dont certains des films de la série ont été oscarisés. Hein. Et c'est une trilogie de comédies romantiques qui réunit Rock Hudson et Doris Day. C'est paru chez Elephant Film et on peut y trouver Confidence sur l'oreiller, un film de 59 de Michael Gordon, Un pyjama pour deux, un film de 61 de Del Berman, et Ne m'envoyez pas de fleurs, un film de 64 de Norman Jewison, un de ses tout premiers films d'ailleurs pour le grand écran. Nous parlerons aussi de Nazarine, un film de Luis Buñuel, un film de 59 qui est sorti également chez Elephant Film. Nous aborderons L'appel de la forêt, un film de 1970 de Ken Annakin, édité par Rimini. Et enfin, nous terminerons par deux films de François Truffaut édités par Carlotta Film, La peau douce, film de 64, et Le dernier métro, film de la consécration hein, pour Truffaut, un film de 1980. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment, salut à toutes.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Pierre Audebert qui s'y colle. Pierre, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Je m'appelle Pierre, je suis actuellement animateur en éducation à l'image. Je travaille dans une structure vers le centre de la France, en Lozère, à Florac, qui s'appelle La Nouvelle Dimension. Une structure donc qui est un pôle d'animation en région, à la fois vidéoclub associatif, mais aussi organisateur de festivals, d'événements. Donc j'anime des ateliers, des conférences sur de nombreux thèmes. Donc par exemple, ça peut être les monstres, ça peut être les cinématographies des pays inconnus, donc au sein d'un atelier qui s'appelle Mondociné, donc avec prochainement la Mongolie ou le Kazakhstan, ce qui me permet de découvrir évidemment de nombreux films toute l'année. Sinon, auparavant, j'étais aussi animateur à la radio, donc de plusieurs émissions cinéma sur différentes radios associatives. Et j'ai été environ 2 ans rédacteur sur le webzine Culture au Point. C'est là que j'ai fait la rencontre de certains rédacteurs de Prime Cut. Et je suis un ami de longue date d'un des fondateurs de la revue Prime Cut.
Pouvez-vous nous présenter votre travail au sein de Prime Cut ?
J'ai essentiellement travaillé autour de Michael Winner. Moi, j'étais parti d'une idée, d'un souvenir persistant de la brutalité de certains films de Michael Winner. J'avais surtout en tête les panoramiques autour des collines, dans les collines de la terreur, et aussi certains coups de patte de panoramiques assez secs dans les poursuites entre Burt Lancaster et Alain Delon dans Scorpio. Donc je me suis demandé si ce qui dérangeait chez Winner était justement cette brutalité qui le rendait finalement assez particulier. Donc je me suis attaché à analyser des séquences dans pas mal de ses films. Donc j'ai vu à peu près tous les films de Winner entre 65 et la fin de sa carrière, excepté je crois celui autour d'un chien qui se trouve dans les années 70, donc une comédie familiale. Et donc j'ai particulièrement été sensible au montage chez Winner et à l'esthétique aussi qu'il travaille, d'autant que c'est un cinéaste vraiment sous-estimé. Donc moi je trouvais que le projet de la revue à ce niveau-là est vraiment excellent, donc réhabiliter des cinéastes dont on dit du mal et prouver par A plus B que finalement ils ont beaucoup à offrir autant au plan thématique ou esthétique. Voilà, sinon après je signe aussi des chroniques DVD dans la mesure du possible, dans les limites de mon temps imparti malheureusement, puisque évidemment le travail de La Nouvelle Dimension me prend beaucoup.
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the-extasy-off-film.com ou de l'acheter chez votre libraire.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
Nous allons démarrer cette émission par une série de films comiques. Une trilogie de comédies romantiques avec Rock Hudson, Doris Day et Tony Randall. On dit toujours avec Rock Hudson et Doris Day, mais c'est aussi avec Tony Randall, puisque à chaque fois, ce sont des films qui mettent en vedette Doris Day, d'ailleurs qui la sexualise un peu, alors que c'était plutôt la... Elle n'était pas vue du tout comme un objet sexuel avant cette série de films. C'était plutôt vu comme celle qui chantonne tout le temps dans chaque film où elle apparaît. D'ailleurs, elle le fait y compris chez Hitchcock, hein, pour peut-être son meilleur rôle, hein, dans la deuxième version de L'Homme qui en savait trop. Et là, Doris Day, à chaque fois, elle tombe sous le charme d'un homme qui ne lui est pas destiné, ou inversement, lui tombe sous le charme d'une femme qui ne lui est pas destinée. Et c'est Rock Hudson. Mais il y en a toujours un qui tient la chandelle, qui est plutôt un bon acteur, hein, c'est Tony Randall, qui est toujours là aussi dans ces trois films. Alors, le premier film, le meilleur de tous, hein, Pillow Talk, Confidence sur l'oreiller, qui avait gagné d'ailleurs un Oscar du meilleur scénario, qui est mise en scène par n'importe qui, Michael Gordon. Alors Michael Gordon, c'est un cinéaste assez intéressant, parce que le dernier film qu'il avait fait avant... Il a été blacklisté, hein, à Hollywood par McCarthy. Il n'a pas tourné pendant 10 ans. Ça, c'est le film de son retour. Et il avait fait un étrange film noir qui s'appelle L'énigme du lac, avec deux acteurs qu'on aime beaucoup, hein, dans Culture Prohibée. Glenn Ford, excellent. Et la magnifique Jean Tierney. Voilà, la Laura de Preminger, si vous préférez. Donc, et ce film-là était très intéressant. C'était un film très, très, très étrange. Voilà. qui n'est pas sans rapport, par exemple, avec un film comme La Maison Rouge de Delmer Daves, avec un peu une sorte de mélange des genres, comme ça, très, très, très intéressant. Là, l'histoire, bon, là, c'est complètement différent, hein, on n'est pas du tout dans le film noir. Ça se passe à la fin des années 50. Et puis, il y a un quiproquo téléphonique où une décoratrice d'intérieur est plutôt vieille fille, hein, célibataire endurcie, donc Doris Day, hein, tombe amoureux d'un auteur de chansons qui s'appelle Brad Allen, qui est en fait Rock Hudson. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, avec un système de ligne téléphonique partagée, c'est lui qui encombre toujours sa ligne et qui passe son temps à roucouler auprès de jeunes filles, à faire la cour à des jeunes filles. Il est insupportable, c'est un gros macho. Et elle en a marre parce qu'elle a besoin de cette ligne téléphonique pour travailler. Et lui est tout le temps en train d'occuper la ligne téléphonique. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ces deux-là vont finir par faire la bamboche, voilà. Mais il va se passer plein de choses. Et on va avoir donc cette comédie très, très étonnante. Hein, franchement réussie, c'est la meilleure des trois, hein, des trois comédies de la trilogie, là, qui est éditée par Elephant Film, avec d'ailleurs un bouquin très, très, comment dire, très complet de Denis Rosano sur le sujet. Le premier film, vraiment, il est piquant. Il a un peu comme chez Wilder, il y a des sous-entendus. Alors, c'est pas du niveau de Wilder, attention, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on a des sous-entendus salaces comme ça. C'est assez grivois parce qu'il y a des choses qu'on peut pas trop montrer à l'époque. Hein, le rythme est très soutenu. On s'ennuie pas une seule seconde. Alors, il faut le voir en VO parce qu'on joue aussi avec les accents texans, par exemple. Il y a aussi plein de sous-entendus lubriques, comme ça. On retrouve aussi dans les seconds rôles Thelma Ritter, qui était la dame assez âgée, qui était sacrifiée, comme ça, dans le port de la drogue de Fuller. Et là, elle fait une femme de ménage tout le temps bourrée, en fait. Elle est tout le temps saoule. Et bon, bah voilà, c'est... C'est assez drôle. Il y a aussi un moment où qui anticipe le film d'Ivan Reitman, un film d'Ivan Reitman, parce que là, à un moment, il est fort possible que Rock Hudson soit le premier homme enceint. Voilà. Donc ça, c'est une des péripéties du film, parmi d'autres. Et puis après, bon, il y a plein de jeux de mots, il y a plein de voilà. Et puis il y a un moment presque gênant, presque étonnant. Je ne sais pas du tout comment Rock Hudson le vivait, mais il y a un moment où Rock Hudson, en fait, se moque de l'homosexualité dans le film. C'est assez étonnant a posteriori, hein. Voilà, parce que quand on sait que Rock Hudson était homosexuel et qu'il s'était caché, en fait, à l'ensemble du public, parce qu'il y a des choses qui ne se disaient pas à l'époque. Voilà. Bon. En tout cas, le film, pour moi, est une franche réussite. C'est un petit classique. C'est assez déluré. C'est assez drôle et c'est vraiment, ça anticipe de 40 ans toutes ces comédies sur la guerre des sexes qui auront lieu des années plus tard. Alors les deux Lustig reviennent en 61 dans un film de Delberman, réalisateur parfois inspiré, là je trouve un peu moins inspiré, un film qui s'appelle Un pyjama pour deux, Lover Come Back. Le Lover Come Back est plus révélateur du fait de vouloir institutionnaliser une sorte de trilogie, hein, voilà, enfin tout du moins un duo de films au départ. Alors là, l'histoire est simple. Carol Templeton, c'est Doris Day. Jeff Webster, c'est Rock Hudson. Ce sont deux publicistes d'agences qui sont concurrentes, hein, sur Madison Avenue. Ils se détestent, sans se connaître vraiment, et essayent chacun de choper les mêmes contrats, en fait. Alors, évidemment, Doris Day, elle a une vie privée inexistante. Elle bosse tout le temps. Et l'autre est un coureur de jupons. Puis vous devinez ce qui va se passer, hein, puisqu'on est dans une comédie romantique. Voilà. Et une fois de plus, il y a Tony Randall derrière. Lui, il est toujours là, hein, qui est le patron un peu taré, en fait. Il est un peu dingue de Rock Hudson. Alors, le film, moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que c'est un film MeToo avant l'heure, en fait. C'est assez rigolo. On est en 61. On parle de la société de consommation. On décrit le microcosme du monde des publicitaires comme vraiment une bande d'abrutis prêts à tout, quoi. Tout pour faire passer un contrat, y compris prêts à inventer des besoins dont les gens n'ont pas besoin. Enfin, pour faire une répétition, c'est pas beau. Voilà. Ils anticipent Apple, en fait. Ils anticipent le iPhone. C'est des génies, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, Et comment dire, et derrière, il y a tous ces hommes libidineux, quoi. Voilà, c'est un monde rempli d'hommes libidineux qui pensent que les femmes sont à leur disposition et ils ne vivent que pour le pognon et le plaisir sexuel. Voilà. Et puis on voit aussi le comportement de patrons très loin des films, de ce qu'on montrait dans les films à l'époque. Surtout, je pense là, par exemple, au film de Capra, par exemple, avec des patrons vertueux, tout ça. Là, on a des patrons qui sont en fait des gens médiocres et qui, quand ils font des erreurs, rebalancent tout sur le dos des employés. C'est jamais de leur faute. Voilà. Enfin, toutes ces choses-là font que pour moi, le film est assez moderne, assez satirique, en fait. C'est assez étonnant. Et avec des moments aussi très gênants. Parce qu'il y a une scène avec des femmes de ménage où là, le film n'est pas du tout MeToo. Voilà. Une scène où les femmes de ménage justifient en fait le viol conjugal. C'est-à-dire, elles discutent et puis elles disent qu'en fait, la femme ne peut pas se refuser à son mari. Voilà. Ce qui est un truc quand même assez horrible. Alors que là, c'est dit sur un ton désuet, comme ça. C'est assez... voilà. Donc c'est vraiment... Et puis une fois de plus, il y a un petit côté... Voilà, l'homosexualité est pas très... Pas vraiment vu d'un bon oeil. Alors, c'est un peu moins bien, parce que je trouve que c'est moins bien mis en scène, en fait, que le film précédent. Mais ça reste quand même une très bonne comédie romantique, avec des moments assez gênants, hein, comme je vous le disais à l'instant, des moments typiquement de l'époque, en fait, hein, mais qui sont vraiment... qui paraissent aujourd'hui totalement consternants, en fait. C'est d'ailleurs très ambigu, parce que c'est un film qui va être dans la présentation du personnage de Doris Day presque féministe, puisque c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui décide, c'est une femme qui, comment dire, qui est une battante, c'est une femme indépendante, tout ça et tout. Et puis derrière, il y a tout ce contexte, un peu puant, hein, on va le dire idéologiquement, hein, qui est vraiment le contexte d'une époque, quoi, voilà. Là, on est totalement, on peut dire, on est dans ce qu'on appelle la culture du viol. Voilà. Après, il y a « Ne m'envoyez pas de fleurs », qui est le troisième volet de cette trilogie. Là, c'est moins bien. C'est un film de 64. Du tout jeune Norman Jewison. Une fois de plus, il y a Rock Hudson. Lui, c'est un hypochondriaque. Et il va voir son médecin généraliste et il surprend une conversation entre le médecin et le cardiologue. Et il pense, du coup, qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Voilà. Donc, il va essayer de trouver à son épouse, donc Doris Day, un mari de remplacement. Voilà, c'est ça son but, et sans lui dire qu'il va mourir, hein, bien sûr. Hein. Et donc, il va demander à son meilleur ami à lui, qui est joué par Tony Randall est toujours là, le trio est toujours là, de lui venir en aide, et ça va pas vraiment se passer comme prévu, évidemment. C'est plus le même scénario, c'est adapté d'un vaudeville de Broadway. C'est beaucoup moins bien. On a du mal à imaginer que c'est le réalisateur de Fist dans la chaleur de la nuit et tout qui est derrière la caméra, franchement. On n'est pas dans Rollerball, on n'est pas dans l'affaire Thomas Crown, là. On est loin de tout ça. Il faut reconnaître que le film manque de rythme, que le scénario est assez moyen. Et que même si c'est un film tout à fait correct, c'est vraiment le plus faible de la trilogie, il faut bien l'avouer. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Reach out and touch faith.
Je vais me tourner maintenant vers mon ami Thomas, parce qu'il est question de prêtres défroqués et d'un film de Louise Buñuel qui s'appelle Nazarine, voilà. Et je sais que quand je parle de prêtre défroqué, tout de suite je pense à Thomas. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'inspire, avec sa tête de bonze, il m'inspire une figure de prêtre défroqué. Mon ami prêtre défroqué, à toi.
Alors Nazarine de Louise Buñuel, on connaît Louise Buñuel qui n'est pas le dernier pour critiquer les institutions religieuses. Mais là, bizarrement, le film prend un autre angle, prend un autre point de vue, hein, vu qu'on est du point de vue de Nazarine, hein, qui est un prêtre fait preuve de beaucoup de dévouement envers le petit village où il officie. Et notamment, un jour, il y a une jeune femme qui se réfugie chez lui, une jeune femme qui a commis un meurtre. Voilà. Et donc, il est un peu tiraillé entre le fait de la confession, bah, c'est sacré, hein, et de venir en aide à cette jeune femme, et le fait qu'il peut se retrouver au bout d'une corde à cause d'avoir donné refuge à cette jeune femme qui a commis un meurtre. Et donc, finalement, il se retrouve à fuir le village avec cette jeune femme et une autre jeune femme qui l'a aidé aussi et qui est aussi dans le besoin. Et donc ils vont marcher sur les routes du Mexique, alors qu'ils sont quand même plutôt en pleine effervescence, hein. C'est quand même pas, c'est, je crois que c'est la révolution, la guerre, hein. Donc ils vont croiser de nombreux personnages qui leur sont pas forcément sympathiques avec eux. Pourtant, ce personnage, Nazarine, lui, il croit toujours. Il est toujours dans son optique de venir en aide aux autres, alors que les autres ne le lui rendent pas. Sauf ces deux jeunes femmes, hein, qui sont proches de lui et qui peuvent rappeler un peu, justement, bah, une figure christique avec Marie-Madeleine, etc. etc. Et voilà, le film, donc, fait plutôt l'occasion de dresser un portrait du Mexique à cette époque, qui était quand même plutôt en éruption, on va dire, hein. Plutôt que de critiquer les institutions religieuses comme Louise Buñuel avait l'habitude de faire dans ses autres films comme Le fantôme de la liberté ou encore Simon du désert.
On l'a beaucoup reproché à Buñuel, en fait, dans sa période mexicaine, il fera aussi La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, qui est vachement bien d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est un des Buñuel que je préfère. On est, pour moi, dans une bonne période de Buñuel, on est dans une grande période de Buñuel. Et c'est pas le Buñuel qui viendra en France, c'est un autre Buñuel encore qui est à cheval entre plusieurs continents. Et on retrouve quand même, hein, moi je trouve, c'est un film un peu à part dans sa filmographie, dans le sens où il faut gratter La satire est là, mais il faut gratter derrière les apparences. C'est-à-dire que ce Nazarine va devenir un prêtre défroqué, hein, voilà, puisqu'il va être répudié par l'Église. Cette femme qui tue, c'est une prostituée, hein, voilà. Donc, et ce Nazarine, il vient toujours en aide aux autres. Il lui demande pas de venir en aide forcément, mais lui, il y va. Ça lui apporte que des emmerdes, en fin de compte, quoi. C'est quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même une critique de l'institution, parce que, en fin de compte, l'institution ne l'aide pas du tout, ce Nazarine. Elle le laisse choir, voilà, complètement. Et c'est un film assez noir, en fait, hein, assez... Alors, sans effet, très, très âpre. Je pense que tu as dû apprécier la mise en scène, toi qui aimes bien la preté, là. Très âpre, très... Voilà, c'est un film un peu à part dans sa filmographie et qui est un film, moi, que je trouve très intéressant parce que mésestimé, souvent peu connu. Et non, franchement, c'est un drôle de film. Un drôle de film que ce Nazarine, qui est une réflexion, une fois de plus, hein, une réflexion aussi sur... sur la foi, la religion, et puis alors c'est vrai qu'il ne les tourne pas en dérision comme dans d'autres films, hein, mais par contre il fait pas de cadeau quand même, hein, c'est-à-dire que Nazarine, je pense que c'est un homme bon en fait, et qu'un homme bon n'a pas sa place dans l'Église, quoi, quand même, hein, au final c'est un peu ça le message du film.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Écoutez Culture Prohibée spéciale classique. Alors je vais enchaîner sur un homme bon, un autre homme bon, voilà. Surtout pour les membres de la NRA, Hein, c'est Charlton Heston. Voilà. Charlton Heston, on rappelle, hein, il a débuté sa carrière en étant une icône de gauche. Il a été très à gauche, d'ailleurs. Et puis, il a terminé en étant très à droite. C'est un drôle de parcours. Il a traversé le spectre politique américain. Voilà, il l'a balayé, comme ça, sur une vie. Mais il n'en demeure pas moins que je ne me rangerai pas du côté de ces... comment dire, de tous ces personnages qui vont renier Charlton Heston parce que, justement, il a eu une fin de vie politiquement peu recommandable. Charlton Heston reste un immense acteur, un des grands acteurs des années 60 et 70, une véritable star et un acteur très, très talentueux qui a tourné dans beaucoup de grands classiques. Et là, il tourne dans un film de 1972 s'appelle L'Appel de la forêt, qui est une adaptation bien évidemment du grand classique de Jack London, qui se passe dans le Grand Nord américain, dans lequel Charlton Heston se lie d'amitié avec un chien de traîneau et il va traverser avec lui des vastes étendues enneigées pour apporter du courrier au prospecteur de la ruée vers l'or. C'est une version européenne du bouquin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y retrouve la belle, moi je l'aime beaucoup, Michel Mercier, hein, voilà, puisque c'est mes premiers émois d'enfant devant la série des Angéliques, voilà, Marquise des Anges, la seule, l'unique, Michel Mercier. Et dans le casting, il y a aussi, l'homme qui bouffe ses tripes, puisqu'il y a aussi George Eastman. C'est assez étonnant. C'est un drôle de casting, ce film. Hein. C'est un drôle de film, d'abord, parce que, voilà, cette adaptation de Jack London, on va pas se mentir, c'est pas une réussite, quoi. Voilà, c'est pas une réussite. J'avais un souvenir assez ému de ce film quand j'étais enfant. Là, je l'ai revu. Alors, l'édition est très belle, la copie est très belle, Rimini a fait le boulot, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon, le film, il y a quelque chose de bizarre dans ce film. Il y a des moments magnifiques. La photo va être superbe, on va traverser des grandes étendues enneigées, il va y avoir des plans séquences de toute beauté. Puis il y a des moments complètement foirés, avec des coups de zoom, c'est très étrange, on a l'impression qu'il y a plusieurs réalisateurs qui se sont succédés sur le projet. C'est un film qui n'a pas vraiment de tenue sur la longueur, comme ça, au niveau de sa mise en scène. C'est assez curieux, en fait. C'est vraiment un film inégal. Mais, par contre, Charlton Heston, impeccable, comme d'habitude, très charismatique. Il porte vraiment le film sur ses épaules, hein, il faut dire les choses. Au final, ce film, je trouve que, si vous avez gardé votre âme d'enfant, que vous avez aimé le film enfant, vous serez content de le revoir. Mais c'est plutôt un beau livre d'images, un beau souvenir qu'un grand film. Et je le regrette, je pense que le roman de Jack London mérite autre chose que l'adaptation avec Omar Sy, par exemple, très récente, ou Omar Sy et Harrison Ford, que cette adaptation-là, puis en fin de compte, sont ni meilleures ni l'une ni l'autre, quoi. Et je pense que ce livre mérite autre chose, mais sa grande adaptation reste à venir, j'en suis persuadé. Mon ami Thomas, on n'est pas en visio, hein, vous ne pouvez pas nous voir. Dans la tête qu'on a, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est des physiques du JT de 20h. Mais malgré tout, je voudrais dire quand même que Thomas a un beau crâne bien lisse, que je contemple depuis plusieurs années. Et je me dis que ce crâne doit avoir la peau douce, n'est-ce pas mon cher Thomas ?
La peau douce, un film de François Truffaut de 64 qui raconte l'histoire, comme souvent chez Truffaut, hein, un triangle amoureux. Hein. Là, on suit Pierre Lachenay, qui est un petit éditeur qui écrit sur Balzac, qui donne des conférences, qui rencontre une hôtesse de l'air, comme ça, en prenant l'avion. Forcément, les hôtesses de l'air, généralement, les rencontrent en prenant l'avion, oui. En se rendant à Lisbonne pour faire une conférence sur Balzac et l'argent. Voilà, Truffaut pose déjà le personnage. Hein, c'est un littérateur, mais quand il parle de Balzac, il parle de Balzac et de l'argent. Je trouve que c'est très révélateur par rapport au personnage et à ce qui va se passer par la suite. Et donc, cette hôtesse de l'air, c'est quand même Françoise d'Orléac, hein, la sœur de Catherine Deneuve, c'est pas n'importe qui. Alors, je comprends qu'on flash sur Françoise d'Orléac. Et donc, il va entretenir une relation avec cette jeune femme, alors qu'il est déjà marié et qu'il a une petite fille. Bon, c'est pas mon Truffaut préféré. Parce que moi, j'ai un gros problème, et je pense qu'à un moment donné, c'est là où veut en venir Truffaut. Hein, le personnage est particulièrement antipathique.
Ah oui.
Moi, le personnage est antipathique et j'y vois une critique d'un certain, une certaine frange du parisianisme de l'époque qui, en, qui peut encore être actuel encore aujourd'hui, parce que non seulement ce personnage est antipathique, mais son épouse aussi. Bon, la gamine, on la voit pas, hein, c'est pas le sujet du film, mais on voit ce rapport de classe, ce personnage qui finalement, cette hôtesse de l'air, c'est un peu une aventure, c'est un peu le mec qui s'encanaille un petit peu avec une femme de plus basse extraction, on va dire. Mmh. Le film est passionnant, il dure 2 heures, hein, il est passionnant de bout en bout, je trouve. Et je trouve que Truffaut montre bien ça, ce parisianisme et puis ce mépris de la province, parce qu'à un moment, il va à Reims pour présenter un film. Et il y a une séquence, une scène de dîner avec ces gens qui le reçoivent, qui l'ont invité. Et il y a tout ce mépris du personnage envers ses hôtes qui ressort à l'occasion de ce dîner. Et je trouve que le film, de ce côté, est assez fort, mais par contre il faut quand même adhérer parce que le personnage est vraiment antipathique, quoi.
C'est un sale type, et puis ce voyage à Reims est particulièrement marquant parce que c'est le voyage de la dissension, quoi. Vraiment, c'est en fait l'humanité, elle est du côté de Françoise d'Orléac, très clairement.
Ah oui,
voilà. Et puis bon, c'est un film sur la passion, assez froid, c'est assez contrasté, ça. Par contre, c'est un film dans les scènes d'amour qui est très beau. Il y a des scènes où on se caresse, où on s'effleure comme ça. Puis bon, Françoise d'Orléac, elle est magnifique, hein, voilà. Donc, c'est peut-être le meilleur rôle d'ailleurs de Françoise d'Orléac. En tout cas, c'est vrai que c'est un drôle de film parce que, comme tu le dis, je vais pas rajouter grand-chose sur ce que tu dis puisque tu dis tout sur le film, hein. C'est un film très réussi quand même dans sa mise en scène, hein. C'est vraiment. Mais Truffaut, c'est un grand metteur en scène, hein. Moi, je trouve que voilà. Je trouve qu'entre Truffaut et Godard, il n'y a pas photo. Après, je sais que c'est mon point de vue, tout le monde ne le partage pas, voilà. Mais moi, il y a un moment que j'adore en tant que fétichiste, c'est quand Jean de Sailly caresse les jambes, là, comme ça, de Françoise d'Orléac, assez longuement. Je trouve que c'est un grand moment d'érotisme dans le cinéma de Truffaut. Juste terminé, je voulais souligner aussi la musique du compère de Truffaut, hein, Georges Delerue, qui est vraiment très belle, je trouve, pour ce film. Enfin, Delerue, en même temps, c'est toujours bon. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle musique et qui est très bien utilisée par Truffaut au moment adéquat. Enfin voilà, Truffaut, c'est un immense metteur en scène qui est également d'ailleurs mis à l'honneur dans une édition blindée de bonus avec un ouvrage dirigé par Jérôme Ouibon qui contient... plein de choses, hein, qui contient un texte, superbe texte de Samuel Blumenfeld qui s'appelle Un métro nommé secret. Il y a une interview de Truffaut, il y a plein de documents, il y a même les fiches des personnages rédigées par Truffaut, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, et des correspondances, tout ça, dans ce très beau livret dirigé par Jérôme Ouibon. Et c'est pour quel film ? C'est pour Le dernier métro.
C'est elle ?
Ouais, c'était elle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle.
Elle me fait l'effet d'un croissant chaud. C'était surtout que je voulais coucher avec elle.
Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimée. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai.
Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance.
Ne sortiras pas d'ici, je casse toute la prison.
La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur.
En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la commandature.
Ces deux types, vous les connaissez?
Des gens de la défense passive?
Non, non, ce sont des gens de la Gestapo. Je reconnais l'un d'eux.
La Gestapo?
Oui, oui.
Vous êtes sûr?
Mais absolument. Je vous dis, je reconnais l'un d'eux.
Je ne vous cacherai pas que j'ai hésité à venir, parce qu'avec un homme comme vous, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation.
Je ne me battrai pas ici.
Alors nous nous battrons dehors.
J'ai peur. J'entends des bruits.
Il y a quelqu'un là? Hey, il y a quelqu'un?
Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Oh, je vois qu'il y a deux femmes en vous.
Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi?
Si, justement, il y a deux femmes en vous.
Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes sauf moi.
D'abord, ce sera toutes les femmes. Et puis vous m'intimidiez.
Écoutez-moi bien, on est embarqués sur le même bateau. On continue de jouer cette pièce ensemble, mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole.
Vous écoutez Culture Prohibée. Le dernier métro raconte sous l'occupation en fait la vie d'une troupe de théâtre, du théâtre Montmartre. Voilà, il y a aussi un juif qui se cache. Voilà, et Truffaut, à travers autour du couple mythique Deneuve Depardieu, après Françoise d'Orléac, donc Catherine Deneuve, beaucoup plus tard, puisqu'on est en 1980. Alors il décrit en fait toute la France à travers ce microcosme, et ça donne un film assez particulier. C'est pas mon Truffaut préféré, moi personnellement. Ça reste un film assez passionnant, et c'est vrai qu'à revoir, oh, c'est quand même riche, quoi. Voilà, c'est quand même un sacré film. Et la photo d'Almendros est magnifique. Enfin, c'est un film sans fausse note, où en plus je trouve que Truffaut utilise très bien les images d'archives, tout ça. Enfin, c'est un drôle de film quand même, puisque c'est un film où il y a de l'ambiguïté, où il y a voilà qui va un peu à contre-courant d'autres films qu'on peut voir sur la période. On voit vraiment la démerde, on voit vraiment le quotidien, et tout ça à travers une troupe de théâtre, parce que c'est aussi une ode au théâtre. Voilà. Et à la création artistique, on peut dire quand même que c'est un Truffaut, un grand cru quand même.
Il y a quelque chose de j'ai remarqué là, en voyant les deux films de Truffaut quasiment l'un à la suite de l'autre, c'est qu'il aime bien les mises en scène qui font un peu désuètes. Alors c'est pas une critique négative, c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis il va ancrer son film dans une sorte d'époque, dans une forme de classicisme. Dans Le Dernier Métro par exemple, il met de la musique, une note suspendue au violon quand il se passe quelque chose de grave, quand il y a Depardieu qui parle avec un résistant, etc. C'est à la fois très téléphoné, mais je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu pour faire se donner côté un petit peu désuet, un petit peu classique. Et en plus, on voit que c'est des décors. Le film n'est pas tourné dans les rues de Paris. On voit que c'est des décors. Je pense que c'est exprès, évidemment, vu que le film se passe quasiment que dans un théâtre. Hein, c'est quasiment un huis clos, hein, presque. On va de la scène dans la salle, et puis on va dans les bureaux ou dans la cave, mais on sort rarement dans la rue. Il y a quelques scènes de rue, notamment la scène d'ouverture. D'ailleurs, le film, j'ai vu qu'il se prenait des critiques à cause de cette scène d'ouverture où on voit Depardieu en train d'aborder une jeune femme dans la rue et de la draguer. Voilà. Et donc, le film est taxé d'être limite masculiniste, etc., parce que ce personnage qui se refuse à Gérard Depardieu est finalement lesbienne, et donc l'honneur masculin est sauf. Alors je pense que Truffaut veut dire autre chose. Hein. Moi je pense que plutôt Truffaut, il est plutôt dans, comme on peut le voir avec La Peau Douce, hein, il est plutôt dans la critique d'un certain virilisme, d'une certaine masculinité, hein, qui est très en évidence, je pense, dans La Peau Douce. Hein. Donc ce personnage, cet homme qui est plutôt très élevé socialement, se sert un peu de sa condition pour s'encanailler auprès de cette hôtesse de l'air qu'il considère quand même moins bien qu'elle, moins bien que sa femme, quelque part. Hein. Et donc, je pense qu'il faut plutôt y voir ça dans Le Dernier Métro. Et on retrouve encore ce thème du triangle amoureux qui est quand même, qui traverse une grande partie de l'œuvre de Truffaut, hein, que ce soit Jules et Jim jusqu'à La Peau Douce, Le Dernier Métro, etc.
C'est aussi un film balzacien, enfin voilà. C'est la comédie humaine aussi, ce film. C'est toute l'humanité qui est là devant nous. Enfin, il n'y a pas de hasard chez Truffaut. Vraiment, tout se retrouve d'un film à l'autre. C'est des thèmes vraiment qui traversent tout son cinéma, comme tu le dis.
En plus, par rapport à cette critique que j'ai vue, que je trouve quand même complètement idiote, hein, les femmes chez Truffaut ne sont pas des potiches.
Voilà. Ah non.
Françoise d'Orléac, c'est un second rôle. Enfin, c'est un second rôle important. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans le film, quand elle est absente, elle imprègne le film. Dans les dernières 20 minutes de La Peau Douce, elle n'est plus là, mais elle est là. Je veux dire, si c'est son absence qui fait que le film continue et va dans cette direction-là. Et comme dans Le Dernier Métro, le personnage qui est quand même qui irradie le film, c'est le personnage de Catherine Deneuve. C'est elle qui cache son mari qui est juif, c'est elle qui tient le théâtre à bout de bras, etc. Donc non, je pense que cette critique que j'ai pu lire est complètement à côté de la plaque et que Truffaut savait filmer les femmes et les mettre en avant.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale classique.
Je voulais dire vraiment que alors, c'est un coffret ultra collector hein, de Carlotta. Alors c'est étonnant de voir un Truffaut débarquer dans des coffrets ultra collector. C'est un peu à part, je veux dire, par rapport au reste de la collection, mais c'est bien parce qu'on est dans les classiques. Moi, j'aurais peut-être sorti un Truffaut un peu plus étrange, un peu plus hors norme. La Chambre Verte, par exemple, dans l'Ultra Collector, c'est peut-être ça que j'aurais vu. Bon, moi, je suis assez truffaldien, vous l'avez compris. Hein, je suis assez anti-Godard. Voilà. Je trouve qu'en fait, Truffaut, c'est le cinéaste élégant et Godard, c'est le cinéaste à pas l'œil. Voilà, malgré d'évidentes qualités chez Godard dans le montage, dans la manière d'agencer ses films, il a révolutionné pas mal de choses. Hein. Mais il y a un côté m'as-tu vu, je trouve, chez Godard, qui met en avant vraiment, enfin, il y a un côté presque voilà, qui est complètement absent, alors que il est très discret, lui, Truffaut, tout ça. C'est absent chez Truffaut, tout ça. Et c'est un cinéaste très effacé derrière ses sujets, mais qui, en fait, est très présent. Et tu l'as dit, il met Deneuve au centre. Bon, on sait qu'il était amoureux de Deneuve. Il a eu une aventure avec Deneuve, je crois. Hein. Enfin, bon, je révèle rien. Il filmait ses actrices, il les aimait. Il filme Depardieu aussi. On sent qu'il aime Depardieu. Depardieu fait une formidable prestation. Hein. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il utilise quand même vraiment très bien les images d'archives. Parce que c'est vrai qu'il y a des images d'archives aussi dans le film. C'est un truc assez particulier. Peut-être, comme tu le disais, hein, pour rester au maximum dans le huis clos. Enfin, je trouve que ça s'agence très bien. Alors, il y a beaucoup de bonus, moi, je trouve, dans ce coffret ultra collector. Il y a une émission de 1980 où on voit François Truffaut qui évoque le monde du spectacle sous l'occupation. Il y a aussi Almendros qui revient sur la difficulté de trouver des images couleurs dans l'occupation, par exemple. Il y a un gros truc sur le Blu-ray, c'est Claude Jean-Philippe avec Truffaut et Truffaut qui parle du Dernier Métro. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est dans trois quarts d'heure. Hein. Trois quarts d'heure, il parle du film, il révèle tous ses secrets. Et il y a aussi une heure de Truffaut avec Anne Sinclair qui raconte sa vie, qui revient sur sa biographie. Je pense que c'est une des éditions où il y a le plus de comment dire, il y a le plus de bonus surtout. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y a un court métrage en fait qui commence aussi par une lettre de François Truffaut envoyée à la petite Sarah le jour de sa naissance en 83. Il donnait rendez-vous alors à cette jeune Sarah le 19 février 96 pour l'anniversaire de ses 13 ans et qu'il ne fêtera en fait jamais, voilà, avec elle. Donc il y a pas mal de petites choses. C'est un court-métrage de Tessa Racine que je ne connaissais pas, j'avoue, voilà. Et il y a pas mal de petites choses comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de vous conseiller aussi, parce qu'il est super intéressant, il met en avant aussi un aspect du film dont on n'a pas parlé, c'est le commentaire audio de Jean-Pierre Azéma, Serge Toubiana, et il y a Gérard Depardieu, le grand Gérard. Voilà. Et on revient, puisqu'il y a Azéma qui est là, hein, on revient grandement sur l'aspect historique du film. Parce que c'est aussi un film sur l'histoire, hein, aussi. C'est réellement le sujet du film, c'est réellement l'occupation, quoi, vraiment. Et je pense qu'une série, par exemple, comme Un village français, qui est assez juste dans son regard sur l'occupation, même si elle occulte un peu le curé, est énormément inspirée, je pense, du film de Truffaut, Le dernier métro. Je pense que c'est une vraie source d'inspiration pour le scénariste Krivine. C'est une vraie source d'inspiration, je pense. Je pense que c'est un film qui a une importance beaucoup plus grande. Il est un peu oublié, quand même, aujourd'hui. On parle beaucoup d'autres films de Truffaut. Tu parlais de Jules et Jim, par exemple. On parle beaucoup de ces films-là, de ces films de début de carrière, des 400 coups, mais... Il n'a pas fait de mauvais films, Truffaut. Et ça, et le dernier métro, paradoxalement, c'est un de ses derniers. Il est un peu oublié. Donc, c'est une chouette opération de réhabilitation, quand même, que ce coffret Ultra Collector.
C'est aussi un film sur la création, artistique, parce qu'il y a un personnage qui est quand même important dans Le dernier métro et qui est quand même particulièrement détestable. C'est le critique de Je suis partout, d'Axia.
Oui.
Hein, c'est vrai. Je pense que Truffaut voulait aussi parler de ça, de la création, de la difficulté de créer quelque chose, aussi de son rapport à la critique. Vu qu'il a commencé comme critique, mais il parle aussi de ça, de son rapport à la critique. Et qu'est-ce qu'une critique aussi ? Parce qu'il y a un passage important où le personnage a écrit une critique ignoble sur la pièce. Et en fait, il dit, parle pas de la pièce. Et puis, en fait, il ne fait qu'insulter ceux qui jouent dedans et ceux qui l'ont faite.
En fait, aussi, Truffaut, alors il faut le savoir... s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il a soutenu un critique qui a été honni du fait d'avoir été collabo. Voilà. Et Truffaut a soutenu ce critique de cinéma. Donc, je pense que c'est pas innocent. Voilà. Je pense que Truffaut veut remettre les pendules à l'heure. Hein, parce que ça, c'est une partie de sa vie qu'on a un peu oubliée à Truffaut. Il y a encore des gens aujourd'hui, si je prends par exemple... J'avais entendu l'autre jour une émission sur France Inter, l'émission de Laurent Delmas. C'était Laurent Delmas qui s'exprimait dans l'émission de cinéma avec quelqu'un d'autre. Et il disait, ouais, bon, Truffaut, quand même, proche de l'extrême droite. Mais en fait, il n'était pas d'extrême droite, Truffaut. Mais il a eu, effectivement, je sais qu'il a défendu un critique de cinéma qui était à la Libération un peu honni. Alors, on rappelle aussi que, de toute façon, il y a eu du monde qui a été honni à la Libération, et que, par exemple, un cinéaste comme Henri-Georges Clouzot avait été condamné à l'interdiction de faire des films. Heureusement que cette interdiction a été levée, puisque c'est un des plus grands cinéastes français de l'histoire du cinéma. Mais voilà, il y a eu des règlements de compte à la Libération, et je sais que Truffaut avait eu des positionnements pour un critique de cinéma dont, malheureusement, j'ai oublié le nom, alors que je le savais, mais j'ai oublié le nom, voilà, pour un illustre critique de cinéma. Et il a pris sa défense, Truffaut, et il s'est attiré pas mal d'ennemis. Donc je pense qu'à travers cet épisode, tu as raison, Thomas, de ce critique de Je suis partout, Truffaut veut un peu remettre les pendules à l'heure et dire, voilà, il y avait des critiques qui étaient des gens comme Clouzot, qui n'était pas critique, hein, qui était cinéaste, mais qui, pour bouffer, continuait à travailler et tout ça, ont effectivement pas forcément écrit et travaillé dans des revues avec des personnes aux commandes qui n'étaient pas forcément les plus recommandables. Voilà. Mais sans pour autant écrire des saloperies. Et puis, il y a des critiques comme le salopard antisémite qui sévit dans Je suis partout, une feuille de chou antisémite, quand même, qui était quand même un... le gros truc, hein, c'était pas... Voilà. Je pense que c'est une manière pour Truffaut de rappeler que, bon, il faut pas tout mélanger, il faut pas être manichéen, et que, bon, la vie n'est jamais simple, ce que montre très bien le film.
Sensible, on peut toucher les instants, les photos, c'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux, je t'en fiche. Vite fait les morceaux de verre qui coupent et ça saigne. Lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Nous, nous, on n'a pas tenu le coup. Boum, boum, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien. Est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent, des jeunes filles parfumées, qu'elle pleure des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou, Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania. À la technique. Salut les gens, à la prochaine. L'amour en...